Bonsoir. Eh oui, c'est bien l'heure des mots d'azur. Une émission consacrée à la poésie contemporaine, réalisée par Béatrice Maché. Laissez-moi d'abord vous souhaiter une très bonne année 2025. Et que la poésie enrichisse vos vies. Aujourd'hui, je suis dans un charmant petit village, nommé Salazac, dans le Gard, à proximité de l'Ardèche. Et je suis en compagnie de mon invitée, la poétesse Anne Barbus. Anne Barbus, pour vous présenter, je dirais tout d'abord que vous êtes née le 16 décembre 1969 à Clermont-Ferrand, que vous partez à Paris dès l'âge de 17 ans pour suivre des études de lettres. Après une agrégation de lettres classiques, vous enseignez quelques années la littérature latine à l'Université Paris 8, avant de quitter Paris, il y a une vingtaine d'années, pour aller vivre dans ce village du Gard où nous nous trouvons aujourd'hui. Désormais, vous enseignez le français aux adolescents migrants. J'ajoute qu'en 2012, par passion, vous vous lancez dans l'apprentissage du grec moderne et vous reprenez des études à distance à l'université Paul-Valéry de Montpellier, muni d'un master de traduction en littérature grecque moderne, c'est-à-dire en pleine crise grecque. Et vous vous attaquez alors à la traduction de l'œuvre inédite en France de Takis Kolonaros. Donc il s'agit du Bonheur d'être grec, paru à Athènes aux éditions Euclide en 1975. Et cet ouvrage, du Bonheur d'être grec, est une réponse à Du Malheur d'être grec de Nikos Dimou, qui lui a été traduit en France en 2012 aux éditions Payot. Avant de poursuivre l'entretien avec Anne Barbus, voici les informations relatives aux activités de l'association Les Mots d'Azur. Notre prochain rendez-vous est un peu lointain. Il aura lieu le 21 mars à 19h au château de Monsartou. Pascal Giovannetti en sera l'invité. Pascal Giovannetti est un organisateur de scènes de slam et slameur lui-même. J'aurai bien entendu l'occasion de vous refaire cette annonce et de vous redire cette natte, de vous rappeler cette lecture au château de Mons. Revenons à mon invitée, Anne Barbus. Comme je viens de le dire en introduction, vous avez fait des études de lettres. Était-ce un vrai choix, une envie légitimée par des projets pour votre futur ? Comme enseigner, puisque souvent l'agrégation mène à l'enseignement, la plupart du temps. Vous vous êtes bien accommodé à ce changement de vie, de rythme, puisque vous passez d'un village d'Auvergne à la vie parisienne, même si c'est une vue studieuse. Est-ce qu'il y a eu une forme de, je n'allais pas dire choc des cultures, mais enfin, vous aviez 17 ans, c'est très jeune.
Oui, mais j'étais très heureuse de partir à Paris. Parce que ça a été un combat pour moi de pouvoir faire des études de lettres, parce que ma famille voulait pas. Et puis à Paris, c'est là que je suis tombée dans le cinéma et que j'ai commencé à voir des films dans le Quartier Latin. Donc ça a été très facile pour moi de vivre à Paris. Au contraire, ça m'a beaucoup apporté.
Alors une autre question dont je crois connaître la réponse, mais les auditeurs ne la connaissent pas. Je veux que les auditeurs l'entendent. Pourquoi avoir quitté Paris et pourquoi s'installer dans un village du Gard, puisque vous vous étiez adaptée à Paris ?
En fait, j'aimais beaucoup Paris quand j'étais étudiante, mais quand j'ai commencé à y travailler, c'était pas la même vie déjà. J'avais aussi rencontré donc mon ex-mari qui était du Sud et j'ai ressenti une nécessité de vivre à la campagne parce que c'était plus en accord avec la façon dont... que j'avais de penser, la façon dont j'avais de vivre. Et je me sentais beaucoup plus à l'aise à la campagne qu'à la ville. La ville, quand on y travaille, c'était pour moi invivable à la fin.
Alors Anne, vous avez commencé par publier des textes en revue. Alors j'en cite quelques-unes. Phréatique, dans les années 90. Arpa, dans les années ou l'année 97, en 2006. Également dans la revue Les Hommes sans épaules. Dans la revue Festival Permanent des Mots, des charges, etc. On peut sans mentir affirmer que vos textes sont le témoin d'un mal, alors, en quelque sorte un mal de vivre, avec comme couleur une forme de révolte. Est-ce qu'écrire est alors pour vous plutôt un partage en même temps qu'une adresse, tournée vers un public, à qui ce témoignage serait utile pour comprendre pourquoi et en quoi certaines personnes ressentent et traversent ce mal de vivre, ou bien est-ce un moyen pour vous de vous comprendre, d'élucider les ressorts du phénomène dépressif, d'aller au bout de l'écriture pour que quelqu'un de neuf apparaisse?
Ah, mais je crois que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que l'écriture m'a aidée à tenir dans des moments très difficiles et m'a aidée également à me connaître. C'est quelque chose d'un peu heuristique, quoi. Et puis aussi parce que à un moment donné, en 2004, lors d'une hospitalisation, j'ai eu envie de donner aussi la parole à ceux qui souvent la prennent pas, ceux qui sont hospitalisés à l'hôpital psychiatrique et qui parfois ne peuvent pas écrire. Et j'avais envie de rendre compte de ce lieu que je voyais de l'intérieur pour la première fois de ma vie et qui m'a bouleversée. Et j'avais besoin de laisser trace de ce que je voyais, de ce que j'entendais, même si parfois c'était très dur, et de la façon dont on traitait les gens à l'hôpital, quoi. Voilà.
Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet, à savoir vos livres. Et nous n'allons pas nécessairement suivre l'ordre chronologique de parution. Nous allons commencer par un livre qui, m'avez-vous confié, et je vous cite, « est un livre plus qu'un livre, il me définit dès le départ ». Alors son titre, « La non-mère », est un livre paru aux éditions « Pourquoi viens-tu si tard ?», des éditions dirigées par Franck et Anne Berthoud, que nous saluons au passage puisqu'ils vivent à Nice et qu'ils pourraient donc nous entendre. Je précise que vous avez publié un autre livre chez cette maison d'édition, « Pourquoi viens-tu si tard ?». Il s'agit de « Recluse ». Mais revenons donc à la non-mère. Et j'aimerais que vous nous lisiez un passage, un extrait, Anne.
La non-mère a des œillères et des griffes. Elle ne rit pas, elle ne pleure pas, ses lèvres se pincent. Et elle coupe ses cheveux courts par pragmatisme, ne se maquille jamais, suivant en cela les préceptes de saint Augustin qu'elle ne connaît pas. Elle hait tes cheveux crépus bouclés, arabes ou hippies, c'est selon. La non-mère ne peut être ta mère, tu es l'adoptée. Le jardin a été parfaitement dessiné par paysagiste. La balançoire est ton envol, on n'embrasse jamais les filles qui déméritent. La non-mère est une impossibilité du silence. Elle fractionne les interdits, a un visage de méduse, et pétrifie les petites filles mangées par les peurs. Elle foudroie les souffrances embryonnaires et vérifie que la porte est bien fermée à clé. Puis elle se réfugie dans l'hypocondrie pour que la victime ne soit pas celle qu'on croit. Et elle prend soin de faire frapper le père. Me dit que lire de la poésie est perdre son temps, et arraisonne les chiffres de l'économie au terme des calculs. Elle sanctionne les imprévus et déconstruit l'avenir. Elle est aujourd'hui terreur intériorisée de toute chair, de tous mes os. Elle est cachée dans mes douleurs de reine.
Merci beaucoup. Ça peut même être un peu difficile de reprendre la parole après ça, parce que c'est quand même deux passages très forts. Et tout le texte, tout le livre est très fort. Un témoignage à charge. Et quel enfant ne serait pas traumatisé d'avoir vécu la maltraitance et la violence parentale? On peut dire que c'est un mauvais départ dans la vie. Ça laisse des traces, ça abîme la confiance et l'estime de soi. Ça fragilise, ça vulnérabilise, on sait tout cela. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que vous pouvez vous considérer sorti d'affaire, comme on dit?
Je pense que je serai jamais sortie d'affaire, mais que je peux juste construire des façons de survivre, que ce soit par l'écriture ou par le sport ou des choses comme ça. Mais que la non-mère, elle est toujours à l'intérieur de moi tout le temps. Je suis partie, j'avais 20 ans, je l'ai pas revue pendant 35 ans. Et elle est décédée au mois de juin dernier, et ça a été encore un gros bouleversement, mais j'avais l'impression que de manière, elle était déjà morte très longtemps avant. comme dans le film de Truffaut, là, dans Les 400 coups, quand Antoine Doinel dit que sa mère est morte alors qu'elle n'est pas morte. Et donc, voilà, je pense que je pourrais jamais gommer tout ça, quoi. La seule chose que je peux faire, c'est écrire, me battre contre cette non-existence qui a mal commencé pour moi.
Dans ce livre, La Non-Mère, la description que vous faites de la société autour de vous, alors petite fille, est une société qui voit s'épanouir les gadgets, le goût pour la consommation de masse. Un monde aussi froid que votre mère, et sans que on fasse d'études sociologiques, en tant que lecteur, on perçoit très bien la pente glissante sur laquelle la société s'enfonce. Après la révolte de 68, comme si rien n'avait eu lieu, ou presque. Donc vous constatez cela, quand même avec un esprit critique et lucide, pour une petite fille.
En fait, dans ma famille, j'avais une cousine qui était hippie, et que ma mère haïssait. Et pour moi, il y avait deux mondes. Il y avait le monde de la société de consommation, et puis il y avait l'autre monde hippie qui m'attirait parce que c'était pas celui de ma mère. Et quand j'ai écrit La Non-Mère, je me suis dit, mais il y a peut-être un lien quand même à la façon dont était ma mère, qui était très arriviste, etc., et l'émergence de la société de consommation, parce que j'ai vécu une époque où on commençait à construire les premiers supermarchés de partout, et c'était vécu par ma mère comme quelque chose de miraculeux. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien entre cette façon qu'elle avait très matérialiste de vivre, et puis moi, ma quête, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus spirituel. Et bon, après, c'est pas de la sociologie que j'ai voulu faire. C'était purement intuitif, quoi. Mais c'est une question que je pose, quoi.
Vous avez en partie répondu là en disant que votre mère avait une vision très matérialiste et arriviste même. Est-ce qu'ils avaient des opinions politiques, vos parents, une forme de conscience de classe ?
Ah, mes parents étaient très à droite, et quand je les ai quittés il y a des années de ça, c'était en 1990, je sentais qu'ils allaient commencer à voter Front National, mais voilà, je pense que depuis ça a dû avoir lieu, mais pas plus, quoi.
Donc, du côté paternel ou maternel, vous avez cette forme de, penchant pour le Front National, mais en 1974, le 19 avril exactement, un homme de 70 ans, affublé d'un pull-over rouge, boit un verre d'eau en direct à la télévision française. Cet homme, c'est René Dumont, agronome mondialement reconnu et premier candidat écologiste à l'élection présidentielle française. Et son verre d'eau est là pour alerter les gens sur la raréfaction des ressources naturelles de la planète. Et il dit « Je bois devant vous un verre d'eau précieux ». Est-ce que vous avez souvenir de cela, Anne, et qu'est-ce qui a déclenché chez vous la conscience de notre planète en danger ?
Ah, j'en ai pas souvenir, à l'époque j'avais 5 ans, donc, mais moi je connais l'histoire. J'ai été sensibilisée au réchauffement climatique à la fin des années 90 déjà. J'avais lu beaucoup de choses et on m'en avait parlé. Et quand je suis venue vivre ici, dans un petit village donc de, à l'époque, 150 habitants, j'ai vu à quel point ça se construisait de partout, autour des villages, etc. Et ça fait 25 ans que je suis là. J'ai eu à me battre contre le maire qui voulait bétonner, préempter, faire des parkings un peu partout. Et j'ai surtout, en 25 ans, j'ai vu la campagne changer autour de moi. Et j'ai compris que les intuitions des années 90 étaient en train de se réaliser. J'aurais jamais pensé que je les vivrais, moi, de mon vivant. Mais j'ai vu petit à petit les arbres se dessécher, mourir suite à des canicules. J'ai vu les problèmes d'approvisionnement en eau dans certains villages qui, dans ma région, pas le mien, sont approvisionnés par camion certains étés. J'ai vu que j'arrivais plus à faire certaines fleurs dans mon jardin parce que tout mourait, que les plantes, certaines vivaces également, mouraient suite aux canicules. Et je suis vraiment extrêmement alarmée par ce qui va se passer dans l'avenir.
Anne Barbus, vous êtes une personne qui confesse. Pour moi, il n'est plus possible de célébrer la nature comme avant dans la poésie lyrique, de s'en tenir aux apparences bucoliques d'un tableau plus ou moins idyllique. Et quand je la regarde, je la vois dans ses transformations, ses souffrances. J'y vois partout la mainmise, la conséquence de l'homme. Bref, Il y a un changement dans l'écriture de la nature. Alors, la question qui vient, c'est évidemment, alors comment vous, vous l'écrivez la nature et est-ce que vous l'écrivez ?
Bah, disons, dans les années 90, j'avais écrit des textes où je célébrais la nature, comme font beaucoup de poètes. Et quand j'ai recommencé à écrire sur la nature, c'était en 2020, je me suis dit, je peux plus la célébrer, parce que la célébrer, ça voudrait dire que tout va bien, tout est parfait. Et derrière, à ce que je vois, je sais tout ce qui a disparu. Du coup, j'avais envie d'écrire autrement. J'avais besoin de trouver une autre manière d'écrire. Et c'est là que j'ai écrit ma douleur planétaire, parce que quand on voit la nature comme ça, on a l'impression que ça a rien à changer, que si on la regarde très très vite. Et j'avais envie de à la fois montrer qu'il y avait des choses qui avaient évolué et d'écrire sur la nature, mais en utilisant toutes les nouvelles qui nous arrivent de façon médiatique, qui peuvent paraître abstraites, mais qui en fait deviennent concrètes depuis quelques années. À savoir le manque d'eau, les plantes qui résistent pas, les forêts françaises qui sont en très mauvais état, etc. Donc je voulais écrire différemment sur la nature.
Ce terme de nature, on ne sait pas très bien quelle définition lui donner. Est-ce que, la question que je me pose, moi, c'est quand on parle de nature, est-ce qu'on ne parle pas en réalité d'un rapport au vivant ?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est beaucoup plus général. Pour moi, je fais partie du vivant, la nature. Bah, peut-être parce que j'ai pas de mère, donc c'est comme ma mère. Et du coup, je me sens à l'égal des animaux. C'est-à-dire, par exemple, quand l'été, les gens s'enferment avec la clim, je me dis mais les animaux, ils sont dehors, ils ont pas la clim, ils vont faire comment, quoi. Et c'est l'ensemble du vivant que je ressens très très fort. Quand je me baigne dans une rivière, par exemple, j'ai l'impression d'être à l'intérieur du vivant et que le vivant m'accueille. Je suis vraiment englobée dedans, quoi.
Et ce qui veut dire que donc il n'y a pas une espèce qui doit être dominante sur une autre, qui ne doit pas s'arroger le droit de vie et de mort sur le reste du monde, et que dans tous les cas, il faut reconnaître que si on est vivant, c'est parce que nous, la planète elle-même nous a fait naître. Plus on gaspille de ressources et plus on suspend la possibilité que des générations futures puissent vivre, tout simplement. Ce lien à l'interdépendance qui est rompu, cette course au profit, quelles qu'en soient les conséquences, cette notion d'harmonie qui est perdue à cause du dieu fric et de son culte, comment pensez-vous qu'on puisse alerter? Est-ce que la poésie peut vraiment avoir un impact ?
Je ne sais pas si la poésie peut avoir un impact. Ma douleur planétaire, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de l'écrire et que je le ressentais comme ça. Et je me suis pas demandé est-ce que ça aura un impact. Après, j'espère. C'est quelque chose qui est tellement ancré en moi que je peux pas ne pas écrire là-dessus, quoi. Voilà. Que ce soit la poésie ou l'art en général, pourquoi pas, hein. Je pense que l'art peut avoir plus d'impact que beaucoup d'autres choses, peut-être qu'un essai ou que la philosophie, j'en sais rien, je sais pas du tout.
Pour illustrer plus ou moins ce que nous venons de dire, j'aimerais vous entendre lire un extrait paru dans la revue des charges. Extrait, à l'époque, d'un manuscrit intitulé « Les travaux et les jours et les loisirs ». Alors ça, c'est pour moi un clin d'œil, hein. J'imagine que ce long poème intitulé « Les travaux et les jours » et les loisirs, ça vient d'Hésiode déjà, son long poème intitulé « Les travaux et les jours » qu'on a l'habitude de qualifier de poésie didactique, mais il s'agit peut-être aussi d'un clin d'œil au documentaire filmé au Japon qui pendant 14 mois suit la vie de Tayoko, une paysanne vivant dans les montagnes près de Kyoto. Et il y a peut-être plusieurs autres clins d'œil d'ailleurs, Anne, parce que moi, je ne connais pas tout et je ne sais pas.
En fait, il y a un clin d'œil à Hésiode, bien sûr, Et le documentaire, je l'ai vu après. Mais il m'a bouleversée parce que c'était vraiment un film extrêmement lent et qui suivait justement le quotidien avec cette lenteur, l'impression qu'il n'y a aucune action. Et parce qu'en fait, c'est juste des actions cycliques, des choses qu'il faut faire chaque jour, chaque mois, etc. Quand j'ai entrepris les travaux et les jours, c'est parce qu'en fait, depuis 20 ans, je fais un potager. Et en fait, ces dernières années, depuis 2017 exactement, j'ai remarqué qu'il y a plein de choses que je faisais avant que je ne peux plus faire. Donc en fait, le but, c'était pas de montrer comme Hésiode qu'est-ce qu'on fait chaque mois, mais qu'est-ce qui ne va plus chaque mois, qu'est-ce qui ne fonctionne plus quand on sème ses graines, etc. Donc c'était pour montrer un petit peu l'évolution. Et j'ai choisi d'intégrer les loisirs parce que je fais quand même partie de mon temps et que cette année-là, j'ai mes loisirs personnels, beaucoup me baigner dans la nature. Et ça fait partie quand même des cycles des saisons pour moi. Et il se trouve que cette année-là aussi, j'avais été invitée à faire du ski, ce que je n'avais plus fait depuis 30 ans. Et j'ai été vraiment marquée par ce que j'ai vu, à savoir les canons à neige, etc. Et j'étais très partagée, il y a un texte dans le recueil qui est pas édité encore, partagée entre ce plaisir que j'avais à descendre des pistes de ski et cette honte et cette culpabilité face à ce que ça induisait. J'ai vraiment ressenti ça très très fort. Je skiais quand j'étais petite dans le Massif Central parce que tout le monde skiait là-bas et j'avais pas reskié depuis enfant. Et ça a été vraiment une claque en pleine figure. J'ai vu de près ce que ça impliquait. Voilà. Et j'avais commencé à écrire en janvier par rapport à les travaux et les jours et j'ai inclus les loisirs en mars. Voilà. Suite à cette expérience de ski.
Alors pour revenir un peu à ce documentaire, la Tayoko, vous parliez de ce rythme lent et tout. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu comme le développement d'une danse buto presque. Enfin, il y a cette lenteur et cette répétition. Voilà, ça c'est juste un aparté, mais je vous laisse lire, Anne.
Les campagnes suffoquent. Les lézards ont complètement disparu. Les derniers touristes pestent contre les derniers moustiques, les tigres, les diurnes. Ailleurs, il pleuvrait. Ailleurs, le ciel aurait des nuages. La chaleur lèche le visage contraint des arbres circonvenus par l'août multiplié par les crises. Le matin, on œuvre dehors, à la continuation de la maison. L'après-midi, on se terre comme des bêtes entre les pierres, le calcaire et la chaux, les douleurs et la honte. La chaleur lèche l'incohérence des apprentis sorciers. Elle brûle les chaînes roux, elle augmente les spectacles, elle scinde les herbes et l'irrespect. Le soleil a déjà déconstruit les murs et sursignifie l'été. L'été nous rentre entre les murs, nous assoit dans la pénombre des volets clos et nous jette dans les feux. Dans les médias, les incendies ont surmultiplié les désarrois. Depuis des mois, les incendies, les zombies, les fulgurants. Dans le réel, au soir, en haut des collines, une lueur étale et diffuse. Au ciel, nuages noirs. Là-bas, on sait que ça brûle. C'est juste une odeur, alors qu'on nage dans la rivière. C'est juste une lueur nocturne, derrière les horizons. Et des amis évacués deux jours, les moutons se sont échappés et sont revenus ensuite. Ils ont trouvé refuge puis ont repris le chemin des enclos calcinés. Les bêtes nous pardonnent, toujours. Elles nous croient les maîtres. On le leur a tellement répété. On a domestiqué le monde et le monde se rebiffe. C'est une langue de chaleur qui assoit l'été sur les excès et les températures. C'est une langue opaque qui fait suer nos corps au premier geste et nous astreint à l'immobilité et l'attente. Au jardin, rosiers, glycines, jasmin dessèchent leurs feuilles pour faire survivre les tiges. La gageure n'est pas toujours efficace. Le figuier a perdu la moitié de ses feuilles, très petites cette année, dès juin. La deuxième récolte peine à allonger ses fruits. Au jardin, c'est à qui survivra. On a peur pour les plantes. On les regarde chaque soir, on inspecte. Coupe branches devenues noires, haute feuilles devenues rêches. On regarde la progression de l'inconséquence. On est démuni, coupable, non sanctifié. On arraisonne les peurs. La chaleur nous cloue sur place. Dans les maisons recroquevillées sur leur ombre, chaque geste devient chaleur. Il faut vider le corps, déconstruire l'intérieur, tâcher d'écrire. Il n'y a plus rien à agir. Au crépuscule, le vent maigre froisse les feuilles restantes. Les plantes entrent en résistance. Un arrosoir, d'eau récupérée des douches et des lavages, tâche de sursoir à la mort d'eux. Sauge ornementale, jasmin d'hiver, rosier, verveine, glycine jeune, 4 ans. Elle souffre chaque matin sur le mur, pourtant orienté est. On parle aux plantes, chaque soir, on les encourage. On souffre avec elles, de tous nos corps désassemblés.
Merci beaucoup. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous écoutez Les Mots d'Azur et que mon invitée est la poétesse Anne Barbus. Dans le texte que vous venez de lire, vous faites le constat que nombre d'entre nous peuvent faire, s'ils sont un petit peu attentifs, et j'ai envie de citer le peintre Paul Virilio. Donc Paul Virilio, c'est début du XXe siècle. Hein. Ça paraît loin, déjà, maintenant, le XXe siècle. « La mesure du monde est notre liberté », dit-il. « Savoir que le monde autour de nous est vaste, en avoir conscience, même si on ne pratique pas ce monde, est un élément de la liberté et de la grandeur de l'homme. La menace, et c'est cela le grand renfermement, c'est d'avoir dans la tête une terre réduite, une terre constamment survolée, traversée, violée dans sa grandeur nature et qui, par là même, me détruit moi, l'homme planète. » Voilà ce que j'avais envie de partager. Paul Virilio, peintre. Alors j'ai envie que vous lisiez un autre extrait, Anne. Et ensuite on se penchera sur ce livre donc, dont il est extrait.
Les éoliennes sont femmes foudroyantes, arrimées à la terre évidée, démise. Sur le monde éparpillé parmi les fruits non cueillis et les vergers abandonnés du capitalisme stérile qui s'arroge la part des rois. Demain, je craindrai les leaders instinctifs. La pluie ouvrira les roses et l'automne sera un cri. D'une femme vomissant douleurs et rêves sur le soir, l'envers de la colère à la couleur éparpillée et borderline des oiseaux finissants. Sous le ciel, la rage est celle des bêtes intempestives et le réel éclate sur le dos des oiseaux. C'est ainsi que les révoltes ondoient, mûres et fleuries, comme des reines, multiples, que les hommes craignent à reculons. C'est là que, crucialement, les femmes se lèvent et osent, après des soumissions excellentes et sournoises, habillées dès le matin avec les mots des petits pouvoirs et des chefs. Pourtant, au jardin, l'humidité d'octobre dessine la branche des silences, et je sème à l'appel de la terre, noire, lourde, grouillante.
Donc vous venez d'entendre mon invitée, la poétesse Anne Barbus, lire un extrait d'un livre paru aux éditions Tarmac, intitulé « Ma douleur planétaire ». Donc vous avez déjà cité le titre, Anne. Un livre de 257 pages, quand même. Hein. Et je vais ouvrir une parenthèse pour présenter aux éditeurs cette maison d'édition, Tarmac, dirigée par Jean-Claude Goiry. Parce que je trouve que c'est assez formidable et que son catalogue vaut vraiment la peine. Les éditions Tarmac, c'est une association à but non lucratif et qui a pour objet l'édition de revues et de livres de littérature exclusivement contemporaine. L'intégralité de l'argent versé à l'association est investi dans la fabrication, la promotion, la diffusion des livres et les droits d'auteur. Il s'agit de diffuser des textes distincts et singuliers, mais réunis par une réelle nécessité de dire et de décentrer dans leur volonté, de porter un autre regard. Une sorte de topographie du territoire écrit avec la prétention affichée de transmettre une différence, une distinction. L'engagement de Jean-Claude Goiry dans l'édition est donc de promouvoir la singularité comme le cœur d'une intelligence collective. Alors la collection est déjà riche et donne à lire en effet des textes forts, des textes coup de poing, des textes coup de gueule, des textes qui osent sans chercher à provoquer autre chose que la réflexion poussée en dehors des sentiers battus. Et voilà, j'avais envie de le dire parce que c'est pas si courant, il y en a beaucoup qui ne s'intéressent que aux études de marché. Parenthèse fermée, mais si vous en êtes curieux, allez visiter le site des éditions Tarmac et achetez des livres. Vous ne serez pas déçus. On revient à « Ma douleur planétaire ». Sur le site des éditions Tarmac, le livre est présenté comme cela. Une année, au rythme des confinements, des saisons et des couvre-feux, pour tresser la parole poétique et la parole médiatique. Recycler le lyrisme et les déchets. Tenter le point de vue de la campagne, de la néo-ruralité et de la terre-femme. Structurer un animisme militant, se réaccorder au vivant. Il ne s'agit pas de sauver, mais de faire parler ce qui reste, pour que l'écriture soit une ZAD, qu'un combat planétaire et non mondialisé émerge et que la langue écologique y prenne sa part. Voilà un résumé dense et qui contient certains mots-clés. Et il faut effectivement différencier ce qui relève de la politique de la mondialisation et ce qui relève de l'intérêt commun planétaire. Alors l'opposition parole poétique et parole médiatique, vous la soulignez, Yann. Mais une parole poétique où l'on recycle le lyrisme et les déchets. L'écriture qui doit être une ZAD, soit une zone à développement différé, une zone à défendre. Est-ce que vous ne dessineriez pas là un art poétique, en réalité ?
C'est ce qui m'est venu à l'esprit après avoir écrit le recueil. Je me suis dit, de toute manière, la poésie de nos jours, c'est un petit peu comme le vivant, c'est quelque chose qui est complètement méprisé du monde capitaliste, donc c'est aussi à défendre. Et finalement, c'est deux exclus de ce monde-là. Et j'ai eu l'impression que on pourrait faire une écriture, que l'écriture poétique pourrait être aussi une ZAD. Et je crois qu'elle l'est un petit peu parce que franchement, elle se développe vraiment en marge de tout le reste, quoi. J'ai écrit un autre texte, je crois, c'est dans Terra Incognita, le dernier recueil, où je dis, je sais plus comment je le dis exactement, mais que les poètes ne parlent jamais à la télévision. Et en fait, je voudrais essayer de montrer qu'il y a d'autres valeurs que celles qu'on nous montre partout, celles du consumérisme, du capitalisme, etc. Et la poésie en est très proche, finalement.
Et sans transition, je vais vous poser une question qui n'a plus rien à voir. Parce qu'il est de coutume de demander à mon invité de choisir un morceau de musique ou bien une chanson à partager avec les auditeurs, qui pourraient de cette façon découvrir quelque chose de nouveau pour eux. Quel serait votre choix, Anne, et pourquoi ce choix ?
Alors, j'ai choisi le début du film Lost Highway, la chanson I Am Deranged de David Bowie. D'abord parce que c'est une chanson... Enfin, c'est une musique et une chanson. Quand je les entends, je vois les images. C'est-à-dire que pour moi, il y a un accord parfait entre le son et l'image du film, dans le rythme et au niveau du fond aussi. Quand la bande-son est particulièrement réussie, on peut écouter une bande-son et voir les images qui arrivent toutes seules, quoi. Et puis aussi, cette chanson, parce que I Am Deranged, cette façon de parler de la folie m'intéresse énormément. Pas seulement à cause de l'hôpital psychiatrique, mais parce que... Je pense qu'il y a une part de folie dans la plupart des personnes intéressantes que je rencontre, et pas seulement à l'hôpital psychiatrique, et dans les grands films qui m'ont marqué aussi. Et Lost Highway en fait partie, quoi.
Alors, je voudrais quand même dire quelques mots de ce film de David Lynch, Lost Highway, qui se traduirait par « Autoroute perdue ». C'est un film que je qualifierais d'étrange, d'inquiétant, mais il est très puissant, énigmatique. L'intrigue se déroule à Los Angeles et l'on voit un saxophoniste condamné à mort pour avoir assassiné sa femme au prétexte qu'elle le trompait. Mais ce petit résumé ne rend pas justice à la qualité du film et ce Lost Highway pourrait être en fait une métaphore ou un trajet dans l'inconscient de ce musicien que la souffrance écrase. Nous allons donc écouter I Am Deranged de David Bowie et c'est la bande son du film Lost Highway.
Secrets travel. I start to believe if I were to leave, in sky the man chains his hands held high. Cruise me young, cruise me babe. A blonde beneath beyond, beyond, beyond. Slowly down,
Vous venez d'entendre I'm Deranged, le choix musical de mon invitée, la poétesse Anne Barbus. Alors, je parlais d'art poétique, il est un autre art que vous considérez comme un art total, et c'est le cinéma. Et d'ailleurs, le livre dont nous venons de parler, ce fameux Ma douleur planétaire, se termine avec Jean-Luc Godard. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce rapport au cinéma? Votre implication dans la rédaction d'articles, la façon que vous avez de vivre avec certains films dans la tête, jusqu'à y faire référence, le nom d'acteurs sans citer, certains cinéastes dans vos livres.
Alors le cinéma, ça a commencé à Paris quand j'étais étudiante, et surtout ça m'a sauvée pendant mes années de dépression, parce que ça m'a excentrée, ça m'a permis de sortir de moi à cause de l'hypnose, hein, parce que 1h30, le temps d'un film, c'est le temps d'une hypnose en fait. Et du coup, le cinéma, à une époque où j'arrivais plus à lire, m'a un petit peu sauvée. Je me suis rendu compte que le cinéma, dans le cinéma, je pouvais trouver tout ce qui m'intéressait. C'est-à-dire autant la parole, la poésie, l'image, la musique, le mouvement, la danse, etc. C'est pour ça que je parle d'art total, entre guillemets, quoi. Et j'ai vu énormément de films. Si bien que très souvent, je vois le monde à travers les films. Si par exemple, je suis dans un jardin, au mois de mai, qui a un cerisier en fleurs, j'aurais l'impression d'être dans Conte de printemps de Rohmer, etc. Et c'est tout comme ça. Quand je suis dans Paris, ben, je pense aux films de la Nouvelle Vague, je vois le monde à travers les films. Je crois que le cinéma, c'est la lumière pour moi, au sens plein du terme. Même si, pour moi, c'est difficile d'aller dans les salles, vu que j'habite très, très loin des villes. Mais le cinéma, c'est ce qui me maintient en vie, parce que c'est là que je trouve le plus de beauté, de nos jours, au niveau de l'art.
Dans la grande catégorie appelée littérature, on a le récit, on a le roman, c'est-à-dire la prose, et puis il y a la poésie. Dans la catégorie cinéma, pouvez-vous, Anne Barbus, différencier de même un cinéma poésie, des films poèmes d'un côté, et de l'autre un cinéma récit? Et bon, moi j'avais en tête Tarkovsky par exemple, mais je connais beaucoup moins le cinéma que vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu différencier donner des exemples?
Tarkovsky, effectivement, tout à l'heure vous parliez des Travaux et les Jours, c'est pareil, c'est un film qui est poétique parce que justement il n'y a aucune action, et ce qui prime c'est l'image, quoi. C'est pas le récit comme dans un roman, même s'il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui s'achemine vers la mort, mais c'est la vie du jour le jour, quoi. Après, il y a des films qui me marquent plus que d'autres. J'ai remarqué que les premiers films de beaucoup de cinéastes, comme c'est des films qui sont faits avec pas grand chose, ils sont extrêmement poétiques parce qu'il faut tout suggérer. Tous les grands auteurs de cinéma sont poètes, que ce soit Pasolini ou que ce soit Godard, qui est extrêmement décrié. Mais chez Godard, les derniers films, c'est que de la poésie, parce qu'il y déconstruit complètement, il n'y a plus de récit, il n'y a plus rien, il déconstruit même le montage. Donc du coup, il n'y a plus que la poésie de la lumière et de l'image, quoi. Et on est vraiment dans la poésie pure, je trouve.
On va se pencher un moment sur un autre livre, intitulé « Moi, la dormante ».
publié aux éditions Unicité en 2021.
J'aimerais que vous en lisiez un passage.
Et pourtant, le monde continue à être monde, et les arbres, tous ces êtres qui s'affairent dans la douleur d'exister, assigner une date à l'événement, le circonvenir, le faire être clos à jamais. À rebours, à reculons, en ambulance, les alignements de platane, le monde reculant, et espacement des douleurs, fuir la possibilité que l'événement se réitère. Mars n'advient pas printemps, et c'est fini.
Voilà, là c'était le début du recueil. Je vais lire la présentation de ce livre. Donc, le titre est « Moi, la dormante ».
Une présentation qui sert de cadre de couverture et que vous avez vous-même écrite, Anne.
« Moi, la dormante » est un journal poétique entamé lors d'un premier séjour en hôpital psychiatrique en 2004, au début d'une dépression. Mêlant vers et prose, il témoigne d'une volonté de rendre compte d'une expérience extrême, d'une descente aux enfers à l'intérieur de soi et des autres, et de la découverte de la dureté de l'univers psychiatrique entre médicaments et enfermement. Il s'agissait alors de garder trace, de témoigner de la maladie psychiatrique, de tous ceux qui éprouvent angoisse et souffrance à tout simplement exister et accomplir les gestes d'une journée quotidienne, alors que la dépression ôte tout élan vital et ravive toutes les questions de l'existence passée. Moi, la question que je me suis posée, c'est comment on écrit un livre comme celui-ci ? D'abord, comment en trouver la force ? Puisque la maladie et les médicaments empêchent, quelque part, la création, et qu'il est sans doute difficile d'écrire ce vécu dans son immédiateté, avec son caractère immanent.
Quand j'ai commencé, moi, la dormante, donc j'écrivais plus depuis quelques années, depuis la naissance de mon fils exactement, et je l'ai commencé peut-être le deuxième jour de mon hospitalisation. Il se trouve que j'avais rencontré juste avant un ami qui avait lu mes écrits des années 90 et qui m'avait dit « faut que tu continues, il faut que tu écrives », alors que personne autour de moi ne m'encourageait à écrire. Et surtout, j'étais dans une situation où de toute manière, j'avais plus rien. Donc, c'était ça où j'arrêtais de vivre, quoi, parce qu'il ne me restait rien, il ne me restait que l'écriture. J'ai commencé à écrire et puis tous les jours, j'écrivais un petit peu. J'écris même de plus en plus chaque jour. Ça avait dénoué quelque chose à l'intérieur de moi, je crois. Les psychiatres ne voulaient pas que j'écrive, ils disaient que je m'enfermais en moi-même. Donc j'ai dû même me battre à... Ils me laissaient mon ordinateur portable qu'une heure ou deux par jour, je ne me souviens plus. Donc j'écrivais sur des bouts de papier, j'écrivais sur tout ce que je trouvais et j'ai continué. Mais au début, je ne pensais pas du tout que ça allait faire un livre. Je ne pensais même pas que j'y arriverais. Je ne me suis pas trop posé la question. J'ai commencé... J'avais pas d'autre solution pour me sauver, quoi. Voilà, c'était la seule chose qui me restait.
Les auditeurs apprécieront, les psychiatres pensaient que ça allait vous enfermer en vous-même. Ils avaient tout compris, cela. Alors, quel est le rapport au langage, le rapport au vocabulaire, aux mots? Justement, quand on est plongé dans cet état de dépression, est-ce que dans cette situation, vous auriez pu dire, comme Sylvia Plath, cette poétesse américaine qui a écrit entre autres « The Bell Jar », traduit par « La cloche de détresse », dire, comme Sylvia Plath, donc, mourir est un art comme tout. Et je le fais extraordinairement bien. Elle avait gardé le sens de l'humour, quand même.
Oui, je ne me suis pas posé la question comme ça. J'ai lu le journal de Sylvia Plath après, je me souviens. Ça a été... J'étais très heureuse de le lire. D'ailleurs, je me suis dit, je ne suis pas toute seule. Par contre, je ne me suis pas posé trop la question qu'est-ce que l'art a à faire dans la psychiatrie, quoi, au début, quoi, en tout cas. Ce qui était intéressant, c'est que c'était plutôt tout ce que j'avais lu en philosophie qui remontait et tout ce qui était abstrait, qui restait une connaissance livresque. Pendant ce séjour à l'hôpital, c'est devenu une expérience intérieure. C'était très intéressant à ce niveau-là. C'était d'écrire de l'intérieur par rapport à des philosophes que j'avais lus avant, mais que j'avais pas compris de l'intérieur. Voilà. Pour ce qui est de l'écriture, j'avais des mythes qui me remontaient, en particulier la descente aux enfers d'aînés, qui est présente d'ailleurs dans le recueil à plusieurs moments. Celle d'aînés, pas Ulysse, parce qu'Ulysse, il descend pas, en fait. Il demande aux mânes de remonter. Aînée, il descend réellement sous terre. J'avais l'impression que j'étais au milieu de personnes qui étaient pas complètement vivantes et pas complètement mortes, et que j'étais, en quelque sorte, descendue comme aînée, et qu'il allait falloir remonter ensuite.
Dante, non, ça vous a pas...
Non, je connais moins.
Alors, après Moi la dormante, paru, je le rappelle, aux éditions Unicité, est paru Les accouchantes nues. Là encore, il s'agit d'un journal, mais cette fois, au lieu de la dépression, on assiste à un accouchement métaphorique, fait de la délivrance de la maladie, fait du souvenir d'avoir donné naissance et d'être née d'une père qui, si elle existe bien, n'est en rien une maman, mais un personnage maltraitant, comme on a pu en parler tout à l'heure. Et dans la revue Les Hommes sans épaules, vous dites ceci: se joue comme un triple accouchement, celui de moi-même pour réparer ma propre mère défectueuse, celui de mon fils par césarienne, qui est donc un accouchement confisqué par les médecins avec les bras sanglés, et celui d'une écriture qui, elle seule, répare les deux premiers accouchements, donc s'enfanter comme on écrit. Est-ce que vous avez des commentaires ou des insights, comme on dit en anglais, des éclaircissements?
Oui, donc à l'époque où j'ai écrit Moi la dormante, j'avais 34 ans. J'avais un fils de 5 ans. J'avais complètement arrêté d'écrire à mon accouchement. Il s'était passé quelque chose à l'intérieur de moi, je sais pas trop. Et j'avais jamais fait de dépression par rapport à ma mère. Et tout est arrivé à distance, en fait, en 2004. Et en 2004, j'ai eu l'impression que soit je mourais, soit il fallait que je renaisse, avec tout ce qui s'était passé, de que ce soit de négatif par rapport à ma mère, ou même mon accouchement qui a été compliqué, justement, je pense, parce que justement j'avais pas de mère. Là, j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'écrive. J'ai un ami poète qui était au comité de lecture de la revue ARPA, Jean-Pierre Farine, qui me l'a dit. Il m'a envoyé un message en me disant: j'espère que t'as compris que maintenant il faut que t'écrives. Et je me suis vraiment rendu compte que ce que l'écriture pouvait m'apporter.
Nous allons parler à présent de votre livre paru en 2022 aux éditions Bruno Gattari, intitulé « Apétros, crise grecque », et qui sur le site de l'éditeur est présenté ainsi. C'est une histoire grecque et française, cinématographique et internationale, plurilingue et catastrophique, antique et contemporaine, où s'entrelacent crise amoureuse et crise économique. Avec ce recueil au ton résolument actuel, Anne Barbus nous donne à lire un texte poétique, riche et dense, mais hors norme, tant par la forme, qui ne s'interdit pas le récit, agencé comme une petite tragédie, que par le brassage de style, entre tonalités lyriques et épiques, faisant alterner des rythmes d'écriture amples ou saccadés, un texte romantique dans un monde capitaliste. Comment on construit un livre comme ça, qui a plutôt l'air présenté, comme le présente l'éditeur, quelque chose d'un peu kaléidoscopique?
C'est un livre qui a presque un petit peu l'apparence d'un roman. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit après coup. Je m'en étais pas rendu compte sur le moment. En fait, quand je l'ai d'abord écrit, et c'est après coup aussi que moi aussi je voyais des parties dans ce livre, pas des chapitres, mais un petit peu des parties. C'est une période assez compliquée de ma vie où il y avait énormément de choses qui s'entremêlaient. C'est une période où j'ai failli partir vivre en Grèce, et puis j'ai pas pu finalement. Voilà, donc je sais pas comment en parler, parce que effectivement, je crois qu'il est assez riche. Il y a beaucoup de choses en fait dedans. Il y a le cinéma, parce que je voyais le monde à travers le cinéma, parce que c'était une histoire assez cinématographique finalement. Mais il y a aussi la Grèce. C'était en pleine crise grecque aussi. Et il y a des gens qui étaient surpris que dans ce livre, alors je parle de la Grèce antique, mais je parle aussi de la Grèce contemporaine et de la misère de la Grèce contemporaine à cette époque-là. Je sais qu'il y a des gens qui venaient... Une fois, j'ai fait une lecture dans un quartier assez aisé, dans une médiathèque, et il y a des gens qui étaient en colère parce que ça parlait de la crise grecque et pas de la Grèce éternelle. J'ai pas bien compris, parce que pour moi, la Grèce, c'est pas que la Grèce éternelle, quoi, c'est la Grèce actuelle. Et puis parce que voilà, il y avait des choses qui se passaient qui étaient très graves en Grèce à cette époque-là.
Et puis il y a eu des choses très graves, comme la Grèce des colonels. Et vous qui aimez le cinéma, Anne,
On peut aussi évoquer le film de Costa Gavras, Z, un film réalisé après l'assassinat du député Grigoris Lambrakis, un député favorable au désarmement en pleine guerre froide. Et ce film montre les agissements des partis d'extrême droite. Parenthèse fermée. Dans votre livre, Anne, et j'en rappelle le titre, « À Petros, crise grecque », paru aux éditions Bruno Gattari, on ressent énormément d'émotions, de l'enthousiasme, de la déception. Il y a une forme de violence qui est faite à l'amoureuse comme au pays. Il y a la musique, donc il y a les films, comme vous l'avez dit. Là, j'ai sélectionné un extrait. Je vais vous le faire lire, Anne.
Il est plus difficile de se séparer des vivants que des morts. Le choix est l'abstraction de notre malheur. Nous n'embrassons que des totalités émiettées. Les jacinthes embaument sans notre vouloir. Les violettes ont succédé à la fugacité des crocus et des âges. Le lyrisme était bréché, l'amoureuse a eu froid dans la neige, Athènes était glaciale. Entre nuages et soleil, qu'avons-nous à dire? Nous ne survolons que l'aplat de nos mystères. Au-dessus des nuages, la lumière ne dit rien aux avions qui ne savent que le passage. Nous étions les spectateurs démunis de nos rêves. North by Northwest. Un homme sillonne l'espace, cherche un homme qui n'existe pas, tout en étant pris pour cet homme qui n'existe pas. Le rien à l'œuvre, mais tout de même le happy end. C'est ici que la vie se démarque du cinéma. Il n'y a aucune larme. La magie ne fonctionne plus. Y aura-t-il de la neige à Athènes? Une femme ne se suicide pas parce que la neige tombe à Noël. En décembre, il faisait doux. J'ai pris un bain dans la mer. Les corps étaient tièdes. La nuit tombe plus vite à Athènes. Je rentre à l'hôtel au milieu des hommes qui passent. J'apprends une langue. Je n'ai peur que de mon errance. Mais les hommes, nous détruisons tous deux avec la peur enfantine. Au pire, je n'ai rien trouvé. Je répète les mots de ta langue. Je prononce avec le revers de la passion. Au pire, j'ai traversé un tunnel de béton tagué de frais et j'ai vu les banlieues solitaires. Je ne t'ai rencontré nulle part. J'ai marché sur les décombres expulsés de mes rêves. Enfin la plage. Une piscine très bleue où des gens nagent dans la lumière de mars. Des voiliers minuscules, des baigneurs isolés. Enfin la plage. Je ne vois pas la mer au pire, mais des policiers traversent un square à moto tandis qu'une mendiante mendie.
Alors merci pour cette lecture, Anne. Donc on parlait de la crise grecque. Alors le temps n'est pas élastique et donc on va finir cet entretien et je vais vous poser la question, est-ce que vous avez des projets en cours? Qu'est-ce que vous poursuivez? Un autre livre en vue?
Des projets en cours, j'en ai pas mal. Ben, il y a les travaux et les jours et les loisirs dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a aussi un manuscrit qui s'appelle « Ne pas dire écrire », où j'ai choisi de prendre le contre-pied de « Apritros crise grecque », c'est-à-dire d'exprimer un amour, mais sans l'exprimer. Et du coup, je parle d'autre chose, tout en intégrant également l'histoire. Mais voilà, c'est plutôt une sorte de road movie qui se passe sur les départementales françaises. Entre Salazac et Montpellier, on va dire. Voilà, et puis j'en ai d'autres aussi. J'en ai plein d'autres dans mon ordinateur, mais je pense que ça serait trop long.
Bon, eh bien, nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Grand, grand merci, Anne Barbus, pour votre accueil et le temps que vous avez pris pour répondre à mes questions. Les auditeurs, j'en suis certaine, auront été touchés par vos paroles et vos poèmes.
Merci beaucoup, Béatrice.
C'était Les Mots d'Azur ou la poésie en direct. Je vous retrouve le mois prochain en compagnie d'un nouvel invité qui se trouvera sur mon chemin entre deux événements poétiques. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.